comprendre un peu mieux comment se passe une élection et quels sont les prérogatives principaux des élus locaux. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je ne suis pas là pour vous dire allez voter telle et telle liste, mais essayez du moins d'aller voter parce que désolé de faire cette philosophie-là, mais on a eu beaucoup de personnes qui se sont battues au fil des siècles et des années pour obtenir le droit de vote. Il y a quelques jours, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Dites-vous que dans certains pays dans le monde, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Vous avez la possibilité de le faire, alors allez aux urnes.
Merci pour ce mot de la fin de l'émission. On arrive à la fin de l'émission La Voix des Municipales. Merci aussi pour cette émission parce que c'est cette émission aussi qui se ferme. C'est un chapitre d'émission qui se ferme. On se retrouvera peut-être pour d'autres émissions sur d'autres élections. Je n'en dis pas plus, je n'en dis pas moins. Merci à vous d'avoir suivi l'émission La Voix des Municipales. On arrive à la fin de cette émission. Retrouvez dès demain l'émission en replay sur la chaîne YouTube de la radio HDR et sur Spotify. Quant à nous, on se laisse pour cet épisode. N'hésitez pas à regarder en replay les autres émissions pour vous faire une idée. N'hésitez pas le dimanche 15 mars pour le premier tour des élections d'aller voter. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Et puis tout de suite, c'est la suite des programmes de la radio HDR sur le mix des cultures. À bientôt.
Tu répètes après moi, on dit ensemble si tu veux.
HDR 1, 2, 3, vas-y.
HDR.
Vas-y,
HDR.
On redit.
HDR.
Vas-y.
Non.
Allez.
HDR. HDR.
Allez.
HDR.
Dis HDR.
Non.
HDR.
99.1.
HDR.
Il est 19h.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bonjour, nous sommes le peuple de Loire. Nous nous appelons Bateau Labo, B-A-T-O-L-A-B-O. Nous naviguons pour des rivières vivantes, de la Loire jusqu'au Danube. Nous sommes ravis de vous rencontrer, peuple de la Seine.
16 octobre 2025, l'expédition Bateau Labo traverse Paris en remontant la Seine à bord de la Fillonnerie, bateau de Loire en bois.
Pour des rivières vivantes ! Ouais ! Bateau Labo, B-A-T-O, L-A-B-O ! Bateau Labo, B-A-T-O, L-A-B-O !
Pour des rivières vivantes, pour des rivières libres,
Samuel Bautreau, de Bateau Labo.
Pour des rivières libres, moi je trouve ça super intéressant. Parce qu'il y a la notion d'écologie de la libération aussi, sur cette idée que l'écologie n'est pas punitive, mais que c'est une écologie qui libère les obstacles et qui crée du lien. Avec Bateau Labo, on va essayer d'accompagner un peu cette idée, créer du réseau entre les gens, créer des synergies, des passerelles culturelles entre les cours d'eau du continent.
Bonjour, nous venons de la Loire. Enchanté, peuple de la Seine. Comment allez-vous ?
Ça nous paraît important d'être à l'écoute de la rivière, un peu comme un stéthoscope, je pense souvent cette image, à l'écoute du fleuve et du coup de ses attachements, des combats en cours, et puis des choses belles aussi qui se passent sur les rivières. Il y a aussi de très très belles initiatives, on a envie de les rencontrer, quoi.
Le bateau, c'est vraiment un outil social.
O.L. Jacquin, charpentier de Marine de Loire.
Quand t'arrives quelque part, les gens ils te sourient et puis ils arrivent, ils viennent discuter. Et d'emmener là sur cette coque de bois un peu de poésie, un peu d'artistique, d'essayer de faire un lien entre les gens qui essayent de sauver le monde un peu, ouais. Si ça peut amener un peu de joie.
Écouter fleuves et rivières, le vivant humain et non humain, faire du lien, apporter de la joie, sauver le monde. Quelques objectifs de l'expédition Bateau Labo, partie de Touraine en septembre 2025 à bord de la Fillonnerie, chaland de Loire en bois. Destination, la mer Noire, en passant sur Seine, Rhin, Danube. Bateau Labo, aventure sociale, artistique, avec des escales proposant spectacles et tables rondes. Aventure scientifique, avec notamment ses prélèvements d'ADN environnemental réalisés tous les 15 km de cette navigation. Aventure juridique, avec cette idée de parlement de Loire et une réflexion pour doter les milieux naturels de personnalités juridiques. Aventure à la rencontre du vivant humain et non humain des fleuves, des rivières, de la planète. Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et la voix off.com et pour votre radio libre préférée, Bateau Labo, B-A-T-O-L-A-B-O, pour des rivières libres. Cette spéciale Bateau Labo commence avec une visite de la filleunerie avec OL, le charpentier.
Pour des rivières vivantes.
18 octobre 2025, c'est la grande odyssée de Bateau Labo à bord de la filleunerie. Aujourd'hui sur l'île Saint-Denis, salut OL.
Salut JB.
OL Jacquin, charpentier de Marine de Loire.
Ouais, on peut dire ça, ou charpentier fluvial, ça marche.
Et devant nous donc ce magnifique bateau, la filleunerie, à 18 ans. Pour un bateau, on est vieux, vieille.
Bah 18 ans pour un bateau de Loire, ça commence à faire. Sur des grandes unités comme ça, elle fait 15 mètres de long, 4 mètres de large. Elle est construite en chêne. Et elle passe tout son temps dans l'eau et c'est un milieu hostile, surtout sur la Loire. Il y a plein de sable qui se mélange à l'eau et qui vient poncer la coque en permanence. Là, on a passé 3 mois d'été à la restaurer pour qu'elle puisse faire ce grand voyage jusqu'au Danube.
Peut-être même jusqu'à la mer Noire, non, sait-on jamais.
Inchaloire.
Donc ce bateau, il n'est pas sorti comme ça de ton imagination, hein, t'inspirant d'embarcations qui ont existé. Là, c'est marqué, c'est d'après un chaland du 19e siècle.
Le plan original du bateau, c'est une gravure du 19e, d'un chaland qui passe devant le château de Ménard, à côté de Blois. Voilà, après, une gravure, c'est pas des plans, c'est un dessin d'un bateau. Donc en combinant les techniques de construction des bateaux qui ont perduré.
Un chaland, en fait, c'est un bateau qui transporte du fret. Est-ce qu'on peut l'appeler aussi tout, gabarre? C'est des bateaux à fond plat, hein, puisque c'est fait pour naviguer en fleuve. Il n'y a donc pas de quille. Il y a bien sûr un mât avec une voile, puisque sur la Loire, il y a généralement souvent du vent d'ouest. Donc pour aller de l'estuaire jusqu'à l'amont, ça marche à la voile. Et puis après, on descend le courant. Mais au niveau vocabulaire, on dit c'est un chaland. C'est quoi une toux? C'est quoi une gabarre?
Déjà, il faudrait qu'on arrive à enlever le mot gabarre du vocabulaire
okay, de
ligérien, parce que c'est un terme qui est arrivé dans les années 90, quand on a commencé à reconstruire les bateaux. C'est un terme qui vient du sud et qui veut dire bateau de charge et qui n'était pas trop utilisé. Les gabarres, c'est plutôt des bateaux d'estuaire qui servaient à faire du petit cabotage pour transporter le fret entre les gros bateaux qui faisaient des traversées de l'Atlantique.
D'accord, donc on bannit, en ce qui concerne la Loire, on bannit gabarre.
Ouais, c'est mieux de bannir gabarre.
Donc chaland, c'est le terme approprié.
Voilà, c'est un chaland de Loire. On peut dire chaland quand ça commence à faire 14-15 mètres. Les grands chalands faisaient jusqu'à 30 mètres sur la Loire. Donc nous, on a un petit chaland. Et là, notamment, on voit que c'est un petit bateau à côté de la grande péniche sur laquelle on est accosté, qui est transformée en habitation aujourd'hui, mais qui faisait aussi du fret.
Et tu peux nous rappeler vite fait ce qu'est une toue?
Et une toue, bah, c'est un bateau entre 9 et 13 mètres, un bateau ligérien, un bateau de Loire. Et après, en fonction de son aménagement, de son utilité, de sa fonction, il y a la toue cabanée qui servait à la pêche sur la Loire.
Parce qu'il y a une cabane dessus.
Parce qu'il y a une cabane dessus. Il y avait des toues sablières qui servaient à extraire le sable de la Loire à l'aide d'une queue de singe, une espèce de pelle râteau. Le tireur de sable se mettait sur un banc de sable et il chargeait sa toue. Et après, il allait revendre le sable sur le port d'à côté. Ouais.
Et là, la filleunerie, donc
15 mètres de long et 3,90 m exactement de large. Elle s'enfonce de 45 cm. Elle a été transformée. À la base, c'était vraiment une réplique d'un chaland du 19e, tout ponté avec une grande piotre, ces gouvernails typiques de la Loire, un guindat, un grand treuil qui faisait la largeur du bateau. Et puis au fur et à mesure du temps et puis de l'évolution de sa destination, à un moment j'ai pendant 6 ans habité dessus, donc j'avais construit une cabane, une petite maison, qui était un vrai nid douillet.
Qu'il l'est toujours, hein, puisque là, il y a une équipée de bateaux labos, et je peux en témoigner moi-même, qu'est-ce qu'on dort bien à bord, c'est tellement confortable, et l'espace est précieux, les choses sont, faut qu'elles soient bien rangées. Et ce mât?
Alors le mât, il fait 11,50 m de haut, et puis il est articulé à 2 mètres au-dessus de l'eau. Il est équipé d'une voile de 100 mètres carrés, on dit voile carrée, qui marche au portant, avec le vent qui vient de derrière. Ça nous permet de remonter la Loire à la voile.
Grâce au fameux vent d'ouest. Cette voile, c'est en gros 10 mètres sur 10 mètres.
12,50 mètres par 8.
Et c'est ça qui pousse cette masse. Puis rappelle-moi aussi, il y a ce petit drapeau qui est tout en haut du mât et qui aide à connaître la direction du vent. Il a un nom, lui.
Ça s'appelle un girouet. Un girouet, c'est une girouette en bois avec une flamme, donc un petit drapeau. On n'a pas encore fait le drapeau, là, il faut qu'on trouve du tissu. On a une machine à coudre à bord. Mais pour l'instant, c'est pas trop du repos bateau labo. On est tout le temps à faire des choses, à naviguer, organiser, partager. C'est très intense.
Comme sur n'importe quel bateau, chaque pièce, chaque ustensile porte un nom bien particulier. Par exemple, petit tuyau, ne jamais parler de ficelle ou de corde sur un bateau. C'est des bouts. Mais genre, on vous regarde de travers quand vous dites corde ou ficelle.
Ouais, il y a des superstitions sur le.
Ah, c'est comme ça.
C'est des superstitions. Après, on est plus ou moins superstitieux.
D'accord.
On dit qu'il y a deux cordes sur un bateau, la corde de la cloche, pour sonner la fin du quart et le début du suivant. Nous, on s'en sert plutôt de la cloche pour signaler notre arrivée et puis appeler tout le monde à la cantine. La deuxième corde, c'était la corde du pendu. Sur un bateau, chaque corde a un nom, ça permet de pas se mélanger dans les manœuvres. Si tu donnes des ordres, borde la corde et choque la corde, et ben le gars qui va devoir faire la manœuvre, il va rien comprendre.
Ouais, il va se retrouver pendu potentiellement.
Alors que si tu dis borde la Marne à tribord et choque l'écoute à bâbord, et ben il va comprendre et il va pouvoir faire la manœuvre qui va permettre d'avancer.
Elle pourrait transporter 100 tonnes de marchandises.
Alors c'est un bateau qui devrait pouvoir charger 10 tonnes. On ne l'a jamais chargé complètement parce qu'elle est motorisée. Et du coup, le puits moteur où est accroché le moteur, il est plus bas que le haut du bordé, donc on ne peut pas la charger à ras-bord.
On peut aller voir ça ?
Oui.
Allez, donc on quitte la péniche qui nous a gentiment accueillis pour cette expédition et on monte à bord donc, de la Fillonnerie. On arrive devant donc le treuil.
Lui, il sert à hisser la voile. Donc ça, c'est un vieux treuil qu'on a récupéré sur une épave en Loire, à côté des Ponts de Cé.
Et donc pour hisser le mât, c'est un autre treuil qu'à l'autre bout, mais on ira le voir tout à l'heure.
Ouais. Okay. Donc là, on est sur la partie arrière.
La barre juste vraiment dans ton voilà. Dos.
Dans la première version du bateau, on avait vraiment le gouvernail typique du bateau de Loire, qui est une piotre. Là, on a son évolution, qui est arrivée au début du XXe siècle sur les bateaux de Loire. Okay. Donc un gouvernail qu'on peut retrouver aussi sur les péniches. Et
Gouvernail, ça désigne un ensemble ou
le gouvernail, c'est l'ensemble.
D'accord. Ce qui trempe dans l'eau et qui donne la direction, c'est le safran.
Voilà. La partie qui est dans l'eau du safran, elle fait 2,20 m. Et puis elle s'enfonce comme la coque là, de 40 cm, 45. Quoi.
Barre très longue là.
2,50 m. Elle fait la barre, quand les 100 mètres carrés sont gonflés, il faut avoir un bon levier pour diriger le bateau.
Et donc là, tu disais, on est juste donc au pied du puits moteur qui est juste sous nous. On descend pour voir ?
Oui.
On descend. À côté du puits moteur. De l'autre côté du puits moteur, il y a déjà une couchette. Il y a combien de couchettes sur ce bateau ?
Il y a 8 couchages et puis il y a des lits de place.
Oui, parce qu'il me semblait qu'on était plus que 8 des fois. Donc,
Ouais.
Et là, donc, on est devant le moteur, un gros moteur.
75.
C'est des tout petits chevaux, parce que pour tous les faire rentrer là-dedans, ouais. C'est un peu le Tetris, quoi.
Ils sont forts, les Japonais.
Ah ouais, Parce que des fois, le fameux vent d'ouest, il n'est pas là. Et quand il n'y a pas de vent, c'est toujours pratique d'avoir un moteur. Hein.
Surtout que sur les canaux, c'est pas vraiment propice à faire de la voile. Il y a des ponts partout, des lignes électriques. On fait pas 3 km sans devoir baisser le mât. Donc là, on met plus le mât pour la para, pour avoir fière allure à côté des péniches sénoises.
T'as dit là, la Fillot, tu l'as faite au doigt levé, d'après une gravure du 19e siècle.
C'est un peu au pif en fait.
Je suppose qu'il y a quand même des trucs, des calculs, peut-être même des secrets de fabrication. Est-ce qu'on fait appel au nombre d'or ?
Je pourrais pas dire que c'est des calculs, c'est une construction un peu empirique. Qu'on tombe bien là dans le savoir-faire immatériel. C'est un processus en fait de construction. On commence d'abord par faire le fond du bateau à plat. Et en fonction des cotes qu'on va mettre de la largeur de la sole, en fait, largeur, longueur, ses proportions, et la levée, le fond du bateau, c'est un fond plat qui est cintré à l'avant et plus ou moins à l'arrière. Il y a des bateaux à deux levées ou des bateaux comme ici avec un tableau, un cul carré, quoi. En fonction de toutes ces cotes-là, ça va faire un bateau différent, quoi.
Un truc empirique, en fait, dans la fabrique.
Ouais, complètement. complètement.
C'est ça le secret, en fait.
Pour avoir un bon feeling.
Okay. D'accord.
Et puis après, des bases qu'on apprend en cherchant, en se renseignant.
T'as appris où, toi? Je sais qu'il y a une école à Douarnenez.
Moi, j'ai fait un BEP. J'aimais pas l'école. J'ai vraiment détesté le collège. Et du coup, j'avais pas envie de faire des grandes études.
Mais dans ta famille, on était déjà dans le bois, hein?
Ouais, ouais. Moi, je suis la cinquième génération de charpentier dans la famille. Bah, c'est quelque chose dont j'ai bien profité depuis que je suis petit. Mon grand-père me construisait tout ce que je voulais. Il était trop fort. L'amour du bois s'est vraiment transmis. Et du travail beau aussi.
Une entreprise familiale qui a toujours été à Lignières de Touraine, sur la Loire.
Ouais, depuis 1903. Mon arrière-arrière-grand-père, il s'est installé. C'est le paradis du bois là-bas.
Toujours avec OL, charpentier de Marine de Loire, qui a passé l'été 2025 à réparer et entretenir la coque de la Fillonnerie avant que cette dernière ne parte de la Loire pour le Danube. Un carénage.
Le carénage, ouais. Ça consiste à sortir le bateau, nettoyer avec un karcher, et puis ensuite on vient sonder la coque, voir s'il y a du bois qui est abîmé. Et là, il y en avait pas mal. Si le bois est pourri, bah faut le changer. Donc on démonte, on remet du bois neuf. Après, on vient calfater entre les planches, les coutures des planches, on dit. On met du bitor, un cordage goudronné, une ficelle de chanvre qui est goudronnée avec du goudron de pin pour calfeutrer le jour entre les planches, parce qu'au bout de 18 ans, il y a des fois où je rentre mes doigts entre les planches. Et après, on vient mettre un goudron qu'on fait chauffer à la spatule. C'est une activité très désagréable. On travaille en l'air, à 1,30 m du sol, et on respire tout ça, ouais. Et après, on vient lui passer 4 couches de goudron pour protéger le bois. Et puis, si on a bien fait le travail, c'est étanche au bout de 3 semaines, le bateau, après la mise à l'eau.
Et le principe, après, c'est que quand tu remets le bateau dans l'eau, tout ça gonfle, prend donc du volume, et c'est ça qui assure l'étanchéité. Alors,
c'est surtout le bois qui gonfle, comme un tonneau. Ce bitor-là, c'est le joint qui va se comprimer, au contraire, quand le bois va gonfler.
3 mois de travaux à combien de personnes sur un bateau de 18 mètres de long?
Je dirais une trentaine de personnes qui ont tourné sur les 3 mois. C'était vraiment usant.
Et c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail.
Ouais, ouais.
Et faut le faire souvent, ça?
Et ben nous, on fait ça tous les 4 ans. Pour que le bateau dure vraiment longtemps, il faudrait qu'on fasse ça tous les 2 ans. Faut au moins 4 ans pour se remettre d'un carénage de la Fillonnerie. On a des petits moyens et c'est long.
Est-ce qu'on peut continuer notre exploration de la Fillonnerie? Donc on parle à côté du moteur. Un premier endroit où il faut bien baisser sa tête. Moi j'ai appris à faire comme toi, ouais, à prendre ce passage à 4 pattes parce que bah, y a le pont du bateau en fait qui est à quoi? 1 mètre du plancher.
Ouais, 1 mètre, ouais.
L'un des espaces de vie de ce bateau, au milieu du bateau.
On va appeler ça le carré, la pièce de vie. Ça fait... je dirais 3 mètres de large, 3 mètres 10 peut-être. Et pareil en longueur. Bah, c'est un carré, ouais.
Donc on s'assied sur l'un des couchages qu'il y a. Là, je suis tout ému parce qu'il y a le lit où j'ai le privilège de dormir si bien depuis plusieurs nuits. Puis en plus, il y a eu un petit coup de rangement, donc c'est plutôt cool. Et tout l'espace est optimisé. Donc là, il y a un bout de couchage qui est le lit où tu as dormi cette nuit. À cheval, sous cette partie où on est passé à 4 pattes. Et il y a la tête juste qui arrive bah, à mes pieds. Ça va, ça s'est bien passé pour toi?
Super, ça va, t'es pas trop grand. Ouais.
Et donc là, on est assis donc, dans la carré, sur l'un des couchages. Il y a une table qui peut circuler. On la bouge facilement.
Ouais, ouais. La table, c'est un rectangle de bois et dimensionné à la taille des cartons de vin. Mmh. Parce qu'on fait du fret de vin nature avec le bateau. Et du coup, quand on fait du fret, on doit charger 1000 bouteilles.
Il y en a toujours 1000 à l'arrivée. Non, tu parlais de patrimoine culturel immatériel.
On se doit de goûter à la marchandise.
Ah, voilà. Et
on aime beaucoup ce vin nature là, qui est fait en respect avec la terre et qui fait pas mal au corps. Mais après, c'est pas un bateau où il y a des abus de... C'est un gros bateau. Hein. Je pense que c'est le bateau le plus lourd naviguant sur la Loire actuellement. Et du coup, ça nécessite d'être un peu carré. Ça peut vite être très dangereux.
Oui, on peut se blesser très gravement sur un bateau.
Ouais.
Hein.
Ouais, ouais. C'est déjà arrivé.
Ouais.
On a un look de pirate, mais...
C'est un travail de savoir-faire, des compétences et des règles de sécurité. Tout est fonctionnel hein, sur ce genre d'outils.
Bah oui, parce que déjà c'est un endroit réduit. Hein. On lutte pour la place, donc ce qui n'a pas lieu d'être à bord, ce qui ne sert pas, n'est pas là.
Je vais faire de la philo à deux balles. Quand t'es sur un bateau, t'es donc plus à terre et que des choses essentielles. Et donc tout est précieux. À bord, les choses ont une autre valeur. Il y a des choses qui sont importantes. Il y en a qui sont pas du tout utiles. Première chose précieuse, c'est l'espace. Surtout quand on est une collectivité flottante, quoi. Donc faut, voilà, ça fait partie des règles de navigation et de cohabitation à bord.
Ouais. Bah oui, c'est... Forcément.
Et donc j'adore cet espace, on va le décrire.
Déjà on peut dire qu'on voit l'eau, il y a des vitres partout. On est dans un carré là où on voit à 360 degrés. Alors là on est à coupe d'un énorme bateau, donc on a vu sur la salle de bain du voisin aussi. Mais sinon c'était vraiment un souhait de voir l'eau de l'intérieur, pouvoir transporter mes grands-mères aussi. Qu'elles aient chaud à côté du poêle et qu'elles puissent profiter de la Loire.
Des grand-mères qui peuvent quand même descendre par l'accès là, qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est un petit peu raide, hein. Faut que grand-mère soit en forme quand même pour monter à bord. Si on tourne la tête partout où on regarde, il y a effectivement des fenêtres et donc de la lumière. En fait, c'est lumineux en permanence. Sur la droite, cette gazinière voilà, qui est encastrée. De l'autre côté, en face, l'évier, donc un jerrycan qui est suspendu au-dessus. Dans cet espace, on peut se tenir debout.
Ouais, c'est l'espace où on tient debout. Sinon... partout ailleurs, moi je tiens pas debout. Il y a toujours des compromis à faire sur un bateau et pour qu'il reste navigant, il faut que ça soit confortable sur le pont et du coup on peut pas faire des hyperstructures énormes, sinon après ça devient impossible à naviguer à la voile, à la bourde. Faut que ça reste navigant, c'est le cahier des charges premier et ensuite faut que ça soit confortable parce que vu que c'est un bateau lourd, c'est vraiment un bateau d'équipage qui se navigue à plusieurs, c'est pas un bateau pour naviguer à deux. On est au minimum 4 à naviguer en fait sur le bateau, mais on est souvent 8. Et du coup, il faut que tout le monde puisse dormir de manière égale. Ça, c'était important aussi. Toutes les couchettes, elles sont sur le même niveau. Grosso modo, la même taille. Après, les gens, ils sont pas tous à la même taille. Et il y a des lits de plage à l'avant pour les couples. Ce qui est chouette dans ce bateau, c'est le bois. Il n'y a pas de bois industriel. Chaque bout de bois a une histoire. Tous ces bouts de bois, ils ont été sciés à alignir à l'atelier avec le banc de scie. Tous les bouts de bois, ils sont arrivés en tronc à l'atelier. On a fait des planches et on a conservé la courbe des bois. Chaque bout de bois est unique déjà. Ça fait beaucoup sur le cachet de l'intérieur du bateau. Chaque bout de bois a été pensé et fait. Et du coup, on ressent aussi quand on est dans le bateau, tous les gens qui ont bossé dessus. On dit que les bateaux ont une âme, et je pense que chacun qui a mis de l'amour à construire le bateau, on le ressent quand on est à bord. Et je pense que c'est pour ça qu'on dort bien aussi. Il y a plein de bienveillance qui ont été aspirées par ces bouts de bois.
Le secret est l'un des secrets de toute cette affaire. Maintenant que tu le dis, ça me semble assez évident. Ce bateau est plein de bonnes ondes. L'équipage minimal, c'est combien de personnes ?
4, quand on veut faire de la voile, pouvoir manœuvrer. Alors après, sur des grandes distances de navigation à la voile, plus il y a de ponts et plus il faut manœuvrer. Le mât, il culmine à 13 mètres et la moyenne des ponts sur la Loire, c'est 8 mètres. Si c'est 8 mètres. Donc ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un pont, il faut baisser la voile, baisser le mât. Là, on rallume le moteur souvent. On passe le pont et on remonte le mât et on remonte la voile. Si on fait ça... 3 fois d'affilée, et ben là faut être 6 ou 8 pour pouvoir tourner parce que ça devient fatigant quoi. Pour pouvoir tourner aussi. Ouais.
Et c'est parmi les moments les plus tendus et dangereux potentiellement pour des mariniers marinières que les passages des ponts. Pour en revenir à ce chantier, combien de personnes en fait qui sont venues mettre d'elles-mêmes sur ce bateau ?
Dans sa fabrication, il y a peut-être 200 personnes qui ont travaillé dessus. Ouais. Hein. J'ai toujours eu beaucoup de soutien et beaucoup de gens à venir même prendre plaisir à participer à la construction, à la rénovation.
Et ce, pendant plusieurs années. Le chantier, il commence ?
Il commence en 2006, ouais. Elle a 18 ans. L'histoire du bateau, c'est J'avais un futro qu'on a construit avec mon père et mon grand-père, qu'on a mis à l'eau en 2003. C'était mon deuxième bateau, le premier, j'ai eu les plombs à 14 ans. Petite marotte, un bateau de 2,50 m en contreplaqué. Ça a vite été trop petit. Du coup, j'ai convaincu mon père et mon grand-père qu'on se construise un futro de Loire de 8 mètres qui s'appelait le Fou du Bois. Et on est parti en 2004 avec ma frangine qui était aux Arts Déco de Strasbourg. On est parti jusqu'à Brest par les canaux bretons. Durant ce voyage, on a rencontré toute la faune ligérienne, les différents bateaux. Et je me suis dit, bah, je voudrais un plus gros bateau, je voudrais construire un plus gros bateau pour emmener plus de gens, parce qu'on était à 4 sur le futro et pendant un mois et demi, c'était vraiment, vraiment juste en matière d'espace. Et puis l'envie de transporter des choses aussi, de servir de ces outils pour véhiculer des idées, pour accueillir du spectacle, pouvoir mélanger un peu les mondes et puis faire découvrir la navigation. Je rentre en charpente navale à Audierne en lycée, en mention complémentaire. Et puis en début d'année, j'ai ma sœur Ninon qui m'appelle et qui me dit bah, moi je suis chaude pour qu'on construise le bateau ensemble, prendre une année sabbatique. Et bah banco, super, on y va. Mention complémentaire, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de vacances, il y a toutes les vacances scolaires et ça c'est... J'ai pas du tout aimé ma scolarité, mais j'ai beaucoup aimé les vacances.
Vacances scolaires.
C'est quand même des temps libres. Du coup, on a passé toutes nos vacances à remplir des dossiers de subvention et monter une association qui s'appelle Charpentier Dio. Parce que nous, on n'avait pas un radis et il fallait construire un bateau de 15 mètres. Bah, ça coûte des sous. Elle a coûté 42 000 euros en 2007, sans main d'œuvre. On s'est pas payé pour faire le bateau, on a du coup les vacances, remplir des dossiers, trouver des arbres. On avait l'entreprise familiale qui nous soutenait, on avait à disposition tous les outils. Pour...
Et l'atelier donc.
Parce... Et l'atelier, on n'a pas construit le bateau dans l'atelier, on l'a construit devant l'atelier parce qu'elle était trop large pour passer par la porte. Okay. Et puis l'atelier était en activité, du coup fallait pas nuire non plus à l'entreprise de charpente quoi. Tout s'est aligné, on a rencontré la mission Val de Loire là, qui nous a amené vers des financeurs qui ont trouvé notre dossier convenable. Et le chantier a démarré en septembre et on l'a mis à l'eau au Festival de Loire d'Orléans le septembre d'après, 2007. Okay. Ça a été une année vraiment intense. On construisait le bateau. Tous les trimestres, on faisait une porte ouverte du chantier, on faisait visiter le chantier aux gens, on avait des invités, donc on a fait une sur le thème de la pêche aux engins en Loire, une porte ouverte sur le thème des Vikings, on avait des copains là qui faisaient de la reconstitution en Viking à La Riche, Thorvald Aventure, là, et qui avait des superbes bateaux qui venaient de Norvège. On a eu une porte ouverte sur le chanvre et le matelotage. On a accueilli les scolaires. Il y avait vraiment une envie de transmettre, de se réapproprier des techniques de construction et de le transmettre. Donc c'était des chantiers participatifs où, depuis le début, on a été plein à mettre la main à la pâte. Et du coup, Ninon, elle a fait un petit carnet de bord du bateau pour les visites de chantier. Petit carnet pédagogique, elle s'occupait vraiment de la partie scolaire et moi plus de la partie technique, conception. On bossait tout le temps sur le bateau, quoi, toute l'année, pas 7 jours sur 7 mais presque.
Est-ce qu'on continue notre visite? Il faut rebaisser la tête.
En plein milieu du bateau, là, il y a une grosse charpente en chêne là, qui est à 1,50 m du sol. Du coup, là, faut baisser la tête. Tout le monde se cogne la tête ici.
Oui, je peux en témoigner.
Parce que c'est un peu bas. Parce que c'est ça qui tient le mât. C'est tout cet ensemble qui soutient le mât d'11,50 m, là. Du coup, faut que ça soit costaud. Donc, c'est le parti pris de devoir baisser la tête. Mais d'avoir un grand mât et une voile de 100 mètres carrés qui peut faire remonter la Loire à un chaland de 12 tonnes quand elle est chargée, quoi. Dans cette charpente, il y a deux escaliers.
Donc là, on passe évidemment en baissant la tête et en courbant le dos. Et on accède à cette autre partie qui mesure...
On est dans la cale avant, là, ça fait 4 mètres de long. On a toujours les vides sur les côtés, mais on est un peu plus bas. Pour quand on est au poste de pilotage, pour pouvoir voir le nez du bateau. si on avait la même hauteur partout, on verrait pas le nez du bateau et ça serait vraiment pas pratique. Pour